VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
13h à Abidjan, 14h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. En Afrique du Sud, l'ex-président Thabo Mbeki a demandé aujourd'hui aux députés du Congrès national africain au pouvoir d'agir dans l'intérêt du peuple et non du parti. À une semaine d'un vote de défiance au Parlement contre Jacob Zuma, l'actuel chef de l'État. Le président Zuma, embourbé depuis des mois dans de nombreux scandales, fait face à une nouvelle tempête politique depuis fin mars, après un remaniement ministériel controversé. L'opposition a demandé l'organisation d'un vote de défiance au Parlement le 18 avril contre le chef de l'État. En Ouganda, une universitaire et militante des droits de l'homme inculpée depuis hier par un tribunal de Kampala pour harcèlement et outrage envers le président Yoweri Museveni. Les détails avec Solange Nyamulisa.
Stella Nyanzi, 42 ans, est connue pour ses commentaires crus postés sur les réseaux sociaux contre la ministre de l'Éducation, épouse du président Museveni. Elle a multiplié ses attaques lorsque le gouvernement a renoncé à fournir gratuitement des serviettes hygiéniques aux filles scolarisées, malgré une promesse de campagne. L'universitaire n'a pas été inculpé pour ses attaques contre Janet Museveni, mais pour ses commentaires sur le président comparé à une paire de fesses. Une remarque jugée obscène et indécente par le tribunal. Arrêtée vendredi soir, la cour a ordonné son maintien en détention. Son avocat a promis de batailler ferme pour défendre les droits de sa cliente et va demander sa remise en liberté provisoire. Gertrude Witware, une journaliste qui a osé lui apporter soutien, a été passée à tabac samedi à Kampala. Human Rights Watch condamne cette arrestation qualifiée d'atteinte à la liberté d'expression.
En République centrafricaine, les groupes armés ont occupé, pillé et endommagé des écoles, empêchant des milliers d'enfants d'être scolarisés. C'est ce qui ressort d'un rapport de Human Rights Watch, organisation de défense des droits humains basée à New York. L'école primaire Saint-François à Bangui, par exemple, a été occupée par des milices anti-Balaka de 2013 à 2015. Selon son directeur Edouard Perret, ces milices ont tout cassé et donné des armes aux élèves. On écoute le directeur Perret.
Ils détruisent tout ce qui est matériel. Donc, ils ont cassé les tables bancs. Quand lorsqu'on passait dans les classes, il y avait beaucoup de salles de classe qui n'ont pas de tables bancs. Les enfants s'assaient à même le sol. Ils ont cassé les bureaux, ils ont cassé notre bibliothèque d'ailleurs. Ils ont emporté tous les livres. Ils ont mis l'école dans un état de délabrement vraiment regrettable.
Édouard Perret, directeur de l'école primaire Saint-François à Bangui en RCA. Dans les deux Congos, les habitants de Brazzaville et leurs voisins de Kinshasa attendent toujours d'être reliés par un pont, ce qui serait la réalisation d'un vieux projet pour faciliter les échanges entre Brazzavillois et Kinois. Un projet que les autorités des deux pays remettent maintenant à flot, nous dit notre correspondant à Brazzaville, Nguela Ngusu.
Dans certains milieux puristes et conservateurs à Brazzaville, on pense que ce pont route rail sera l'occasion de se faire envahir par les Kinois qui sont déjà très nombreux sur la rive droite du fleuve. Mais Klesh Atipo, le premier secrétaire de la mairie de Brazzaville, croit plutôt au profit que tireront les deux villes de cet ouvrage.
Pendant un moment, on se dit, bon, ils sont plus nombreux puisque nous à 1 500 et eux à plus de 7 millions. Mais l'afflux, ça ne fait pas mal tant que ça peut arranger les deux peuples. Je pense que c'est une bonne affaire.
Alphonse Ndongo, un économiste, explique d'ailleurs que Brazzaville s'en tirera bien face à un marché très dollarisé à Kinshasa.
Le Congo est le point de passage pour les autres pays de la zone CEMAC pour la RDC. Donc, ils sont à la recherche des devises en franc CFA, mais nous aussi, il faut le reconnaître que l'économie de Kinshasa est une économie dollarisée. Donc, c'est quelque chose qui éventuellement aussi peut nous faire entrer des devises parce que ces échanges ne vont pas s'effectuer en francs congolais ou en francs burundais, n'est-ce pas? Si nos économistes et ceux qui ont en charge la faisabilité de ce projet examinent les choses de fond en comble, c'est pour nous une meilleure ressource.
Il faut de la patience, car la volonté politique de Brazzaville et de Kinshasa compte dans la réalisation de ce projet route rail. Le conseil d'administration de la Banque africaine de développement, qui se réunit en mai prochain, examinera le budget de 51 milliards prévu pour les débuts des travaux de l'ouvrage. Au bord du fleuve Congo, Nguela Ngusu, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Niger, la lutte continue entre les forces de sécurité nigériennes et les éléments du groupe islamiste nigérian Boko Haram qui effectue régulièrement des incursions dans le pays. Au moins 57 djihadistes ont été tués dimanche soir lors de violents affrontement avec l'armée près de Guéskérou dans le sud-est. Les forces nigériennes ont saisi d'importantes quantités d'armes et de munitions et 3 véhicules des assaillants. Les explications de Moussa Aksar, directeur de l'événement à Niamey, au micro d'Idriss Fall.
Selon nos informations, il s'agit d'une attaque perpétrée par les éléments de la secte Boko Haram à ce village de Guéskérou. Dans la nuit du 9 aux environs de 21h, ces éléments étaient venus à bord de plusieurs pick-up pour attaquer une position de l'armée nigérienne qui était sur le qui-vive et qui a réussi à infliger de lourdes pertes à ces assaillants-là. On parle d'un nombre de 57 éléments de la secte tués lors de ces affrontements-là. Le 5 avril et le 8 avril dernier, des éléments de la secte Boko Haram qui ont réussi à faire une diversion avant cette attaque de Guéskérou, mais qui ont été aussi démasqués et neutralisés dans le village de Bodrum, dans la région de Menesoro. Le 5, c'est un élément qui a été dénoncé par la population et puis cueilli par les éléments de RDS. Et le 8, ils ont réussi à faire une incursion pour faire diversion dans cette zone-là avant de lancer l'attaque sur Guéskérou, qui était leur objectif principal.
Moussa Aksar, directeur de l'événement à Niamey, au Niger. En Côte d'Ivoire, détresse des producteurs de cacao. Les cours de leurs denrées sont actuellement à leur niveau le plus bas depuis plus de 3 ans. Notre correspondant à Abidjan, Georges Ibrahim Tunkara, est allé à la rencontre des paysans qui font face à une situation très difficile.
Tous les magasins d'Abidjan sont remplis de cacao. La perte est énorme. Aujourd'hui, il y a plus de 300 000 tonnes qui est entre les mains des paysans. On ne sait pas quoi faire avec.
Du cacao, les paysans ivoiriens en ont en grande quantité sous la main. Et pour s'en convaincre, il suffit de faire un tour dans des zones productrices ou simplement au port d'Abidjan ou de San Pedro. Plus de 30% de baisse des cours sur le marché international depuis octobre dernier. Les conséquences sont ici visibles. Kwame Kwame Jean, producteur à Divo, à 190 km d'Abidjan.
Le cacao, on ne sait pas comment on va vendre. Ils sont venus, ils ont décidé de donner ça à 700. On m'a dit quoi? On a accepté pour ne pas que ça reste encore à la base. Actuellement, le cacao est encore sous la main des planteurs.
De 1100 francs CFA le kilogramme, le prix d'achat du cacao aux planteurs est passé à 700 francs le 30 mars dernier. Une chute qui amène de nombreux producteurs à se tourner vers le Ghana voisin. Kone Moussa, président du syndicat national agricole pour le progrès en Côte d'Ivoire, le SINAPSI.
Aujourd'hui, à la frontière du Ghana, les Indiens qui étaient au Ghana, ils viennent acheter le cacao en Côte d'Ivoire. Ils prennent le kilogramme 950 francs le kilo. Pendant que le prix est fixé ici à 700 francs, pourquoi il n'y a pas de blocage au Ghana? Pourquoi il n'y a pas de blocage au Cameroun?
Preuve du malaise qui secoue la filière, des producteurs ont manifesté le 17 février dernier à Abidjan avant d'être dispersés par la police. En outre, le syndicat national agricole pour le progrès en Côte d'Ivoire, le SINAPSI, a décidé d'intenter une action en justice à l'encontre du Conseil du Café Cacao, le CCC, l'organe de régulation de la filière. Le CCC est notamment chargé de la gestion d'un fonds de réserve créé en 2012 par l'État pour indemniser les paysans en cas de chute des prix du café et du cacao.
Le cacao est prix fixé 1100 francs garanti. C'est le même cacao est revendu sur le marché mondial avec Conseil Café Cacao 1805 francs. Et donc cet argent qu'ils prennent après avoir enlevé droit unique de sortie de l'État et le revenu que les gens gardent en cas de chute du prix. Et ces fonds-là, on nous a toujours dit que ça est là, mais on n'a jamais vu. C'est pour ça qu'on porte plainte.
Boti Bizois est le président du conseil d'administration de l'ANAPROCI, l'Association nationale des producteurs de café et de cacao de Côte d'Ivoire. Il dénonce lui aussi la mauvaise organisation de la filière.
Une organisation qui échappe aux producteurs eux-mêmes, qui infantilise les producteurs.
Nos tentatives pour avoir des responsables du conseil café-cacao sont restées infructueuses. Le cacao, c'est 50% des recettes d'exportation de la Côte d'Ivoire. Georges Ibrahim Tunkara, Abidjan, VOA Afrique.
Et pour terminer, actualité américaine, le juge Neil Gorsuch a prêté serment hier à la Maison Blanche, sa dernière étape avant de siéger à la Cour suprême des États-Unis où il va renforcer le camp conservateur. Les détails avec Chérubin Dorsil.
Nous sommes réunis ici pour un moment historique, a lancé le président Donald Trump en rendant hommage à l'intégrité incontestable du magistrat, ses propres termes. Neil Gorsuch a prêté serment, la main gauche posée sur une Bible tenue par son épouse. Il a promis d'être un serviteur fidèle de la Constitution et des lois américaines et s'est engagé à servir l'idéal de justice avec impartialité et les mêmes égards pour les riches et les pauvres. 2 heures auparavant, il avait prêté un premier serment à la Cour suprême. Le juge Gorsuch, 49 ans, est le plus jeune magistrat nommé à l'instance suprême en un quart de siècle. Il devient le 9e juge nommé à vie qui va faire basculer l'institution sous l'aile des conservateurs.
Merci de votre attention.